Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Dans cette journée internationale des réfugiés, il est essentiel de se pencher sur la situation alarmante qui prévaut au Sahel. La pression des réfugiés soudanais accentue la crise humanitaire dans les pays voisins déjà fragilisés. Des milliers de femmes et d'enfants déplacés vivent dans des conditions précaires dans la région de Mopti au Mali. Nous irons dans le village de Tchin au Burkina Faso à la rencontre d'une femme déplacée qui trouve une nouvelle vie dans l'orpaillage et la restauration. Le Mali demande le retrait de la mission de l'ONU dans le pays à la veille de son référendum constitutionnel. C'est notre fait marquant de la semaine. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Les Nations Unies prévoient que près d'un million de personnes fuiront le Soudan d'ici octobre, la plupart d'entre elles se réfugiant dans des pays voisins tels que la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie ou le Sud-Soudan. Cependant, la plupart de ces pays sont confrontés à leurs propres problèmes avec des personnes déplacées par les conflits qui font face à l'insécurité alimentaire et à l'instabilité. Henry Wilkins s'est rendu à Borota, au Tchad. Dans ce reportage, il y rend compte des défis auxquels seront confrontés les réfugiés soudanais dans leur communauté d'accueil. Le récit avec Michel Claire-Joseph.
Saïd Adam Mohamed, 16 ans, raconte qu'un matin de mai, il a enfourché son vélo et s'est dirigé vers ce terrain en périphérie de Borota, une ville tchadienne située à environ 5 km de la frontière soudanaise. Il a vu arriver des milliers de réfugiés soudanais.
Les gens se sont enfuis et sont venus ici, mais il n'y a ni nourriture, ni eau potable, pas de nourriture décente, pas de vêtements.
Quelques 425 000 réfugiés soudanais ont fui vers les pays voisins en raison de la guerre civile qui sévit chez eux. Mais nombre de ces pays d'accueil sont eux-mêmes confrontés à des conflits internes et ont du mal à nourrir leur population en raison de l'augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires et de l'inflation. Le maire de Borota, Toko Bahat, affirme que la communauté a fait tout ce qu'elle pouvait pour accueillir les réfugiés.
À Borota, les habitants proviennent de divers endroits tels que Konga et Porto. Ils se connaissent tous. Ils sont comme des frères et sœurs puisqu'ils viennent des mêmes familles ou tribus. Il n'y a donc aucun problème à vivre ensemble.
De même au Soudan du Sud, bon nombre de ceux qui fuient le Soudan sont des rapatriés sud-soudanais. Cependant, les deux tiers de la population du Soudan du Sud sont déjà confrontés à l'insécurité alimentaire et à l'instabilité, notamment à Renk, où de nombreux réfugiés sont arrivés.
La différence entre le Sud-Soudan, le Tchad ou l'Égypte, c'est que la majorité des personnes qui traversent la frontière sont des rapatriés. Les communautés sont plutôt accueillantes et bien sûr, nous espérons que cela va continuer. La pression que cela exerce sur le marché et sur la réponse humanitaire sera certainement difficile à gérer pour les agences humanitaires et le gouvernement.
Ces dernières semaines, la plupart des réfugiés soudanais, soit plus de 170 000 personnes, ont fui vers l'Égypte. La monnaie égyptienne a été dévaluée de 50% par rapport au dollar au cours de l'année écoulée, tandis que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 60%. La République centrafricaine, où environ 14 000 réfugiés sont arrivés, est plongée dans une guerre civile depuis plus de 10 ans et la situation sécuritaire y est désastreuse. L'Éthiopie, où des milliers de réfugiés ont fui, se remet d'une une guerre civile qui s'est achevée en novembre. L'Érythrée a été accusée de refouler les réfugiés qui tentent de fuir les combats au Soudan. Lors d'une visite en Égypte fin mai, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a félicité l'Égypte pour son aide aux réfugiés soudanais, mobiliser davantage de ressources pour les aider à maintenir cette générosité.
Voilà, c'était le reportage de Henry Wilkins et le récit de Michel Claire Joseph. Malheureusement, nous ne parvenons pas à rejoindre notre collègue de la radio partenaire en N'Djamena, Liberté FM, pour nous éclairer davantage. Mais je suis en ligne avec notre guest, c'est notre invité, Alpha Seydiba, qui est porte-parole du ACR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alpha Seydiba, bonsoir.
Bonsoir.
Le Sahel, traversé par des conflits, des déplacements massifs de population et une insécurité croissante, est confrontée à des défis humanitaires majeurs. Et pour mieux comprendre donc cette réalité complexe, nous avons voulu nous entretenir avec vous. Nous sommes ravis de vous recevoir dans Focus Sahel. Un mot d'abord sur cette situation au Tchad. Le Tchad donc qui reçoit cet afflux important de réfugiés soudanais. Vous collaborez avec ce pays.
Effectivement, je pense que le reportage a très éloquent sur la situation des personnes qui ont été malheureusement obligées de les conflits au Tchad. C'était un défi, une situation très alarmante où les gens arrivent dans des conditions précaires. En peu de temps, en trois mois, je pense qu'on a dépassé les temps arrivés à la frontière est. Entre le Tchad et le Soudan. La plupart la plupart c'est des femmes et des enfants qui arrivent au début, ils étaient en plein air, hein, parce qu'ils manquent de tout. Mais le HCR, qui est un peu avec d'autres partenaires, mais surtout avec le gouvernement tchadien, a entamé une opération ou des opérations. D'abord de sécurisation, d'accueil et moment de relocalisation pour les éloigner de la frontière dans des lieux plus sûrs pour pouvoir apporter une aide beaucoup plus appropriée. Donc c'est déplorable, très, très compliqué, surtout dans un contexte où le Tchad lui-même a payé déjà avant cette crise plus de 400 000. Là, le Tchad qui lui-même fait face aux défis de social, économique, comme vous le savez, qui fait face à beaucoup de difficultés et qui a fait preuve d'une générosité incroyable en accueillant ces défis de personnes. Aujourd'hui, on est à 707 000 réfugiés au Tchad, dont la plupart ce sont des réfugiés.
Oui, Alpha, est-ce que y a-t-il des programmes en place, mis en œuvre, des programmes de coordination pour soutenir justement les efforts du Tchad dans la gestion de cette crise humanitaire à sa frontière?
Effectivement, je pense que dès les premières parties, le HCR s'est mis aux côtés du gouvernement avec des partenaires et des organisations international pour appuyer le Tchad travaille à pour fournir de l'appui, pour fournir de la nourriture, pour fournir des soins de santé de base, fournir des produits non alimentaires pour aider un peu à apporter une assistance et une vie plus ou moins à qui ont été malheureusement obligés de fuir et dans la majeure partie sont des femmes et des enfants. Donc le HCR, le gouvernement n'est pas seul, il est soutenu par la communauté internationale et même si ce soutien il est freiné par le peu de moyens parce que les ressources sont de plus en plus rares, le Tchad et l'Ambétude pour l'OHR les moins financés. Les opérations humanitaires sont vraiment très, très en deçà. Le financement des opérations, c'est très en deçà par rapport au besoin. Le besoin s'élève à plus de 241 millions de dollars. On n'en est pas moins.
Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de toute la région. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel en matière de gestion des flux de réfugiés et de personnes déplacées dans la région?
Merci, excellente question. Le Sahel donne à peu près une idée de ce qui se passe un peu dans le Sahel. Donc, c'est les principaux défis. C'est d'abord la violence intense. La violence, l'insécurité, l'instabilité perpétrée par des groupes armés qui entraînent un déplacement massif des populations. Et dans cela, vous avez aussi des atteintes aux droits civils, des atteintes aux droits humains. À cela s'ajoutent les capacités nationales qui sont déplacées. Pour le cas du Tchad, c'est aussi pour le cas de pays comme le Niger, comme la Mauritanie, comme le Burkina Faso. Voilà, donc les capacités nationales qui sont déplacées, les ressources qui sont limitées, qui ont besoin de plus d'aide. Et aussi à cela, le troisième point qui est non moins important, c'est aussi le risque de propagation. Parce que ce sont des frontières qui sont où le conflit se propage très rapidement, les déplacements se propagent très rapidement dans les pays. Récemment, nous avons vu un afflux massif de réfugiés burkinabés dans les pays côtiers, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, au Togo, au Bénin, au Ghana. Donc voilà, c'est une aussi de propagation dans les pays voisins. C'est pareil pour le Soudan avec l'Érythrée, le cas, la santé, le cas,
les pays. Alpha, il doit y avoir justement de l'impact de cette crise sécuritaire dans le Sahel sur les droits de protection des réfugiés et des personnes déplacées. Mais quelles sont les perspectives pour une solution durable à la crise des réfugiés dans le Sahel? Et quel rôle les acteurs régionaux et internationaux peuvent-ils jouer pour y parvenir? Il nous reste moins de 2 minutes.
Parfaitement. Les crises sont humanitaires. Donc, la première solution, la première perspective, c'est d'abord amener les acteurs à faire la paix. Tant qu'on n'a pas à faire la paix, les crises vont se faire le premier. Donc, il peut aussi amener à un renforcement de la sécurité. De toute façon, ils ne sont pas obligés de faire. Le point, c'est le plus important dans le développement économique pour améliorer la vie et réduire les causes profondes. Comme troisième point, c'est aussi un investissement conséquent des actes. Pour que ces gens, par exemple, le Tchad où les gens sont réfugiés depuis 30 ans, ne comptent pas revenir partir au Soudan, qu'on leur offre des opportunités de pouvoir reprendre leur vie, de pouvoir leur des opportunités économiques en investissant davantage sur les services, en investissant sur qui favorise l'inclusion. Et qui leur donne les moyens de pouvoir intégrer durablement au travers des efforts et de développement.
Merci beaucoup Alpha Barry, Alpha Seydiba plutôt, vous êtes porte-parole du ACR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci beaucoup pour votre expertise.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Dans la région de Mopti, au centre du Mali, près de 30 000 personnes déplacées en provenance des cercles de Bandiagara, Bankas et Koro résident dans des camps en périphérie de la ville de Sévaré et dans des conditions souvent difficiles. Les femmes et les enfants constituent la majorité de cette population déplacée. Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, donc aujourd'hui, notre correspondant Tidiani Ouedraogo a recueilli leur témoignage. Suivez.
Ce sont des témoignages poignants que nous avons recueillis auprès de ces personnes forcées d'abandonner leur foyer pour s'installer près de la ville de Sévaré. Fatmata nous raconte l'attaque qui l'a poussé à fuir.
Quand notre village a été attaqué, mon mari était la première victime. J'avais soulevé notre lit, les enfants et mon mari se sont cachés pendant un moment. Les assaillants sont rentrés, ils ont fui la maison. Malheureusement, à leur sortie, un de mes enfants a pleuré. Ils sont revenus soulever le lit. C'est ainsi qu'ils ont vu mon mari. Et immédiatement, ils m'ont tiré une balle à la tête. Nous sommes ici depuis 4 ans. La dernière explosion d'engin au lendemain de la fête de Ramadan cette année a eu un coup dur pour moi. Comme vous le voyez, mon pied s'est fracturé. Je suis assise là depuis 2 mois sans pouvoir rien faire. Vraiment, j'ai besoin d'aide pour surmonter tout ça.
Yakuba, qui a fui avec toute sa famille, ne souhaite rien d'autre que de rentrer chez lui. J'ai vu avec ma femme et mes enfants. Nous avions fui l'insécurité dans notre village suite aux attaques. Arrivés à Sévaré, nous avons bénéficié des maisons en hangar. Dieu merci, mes enfants continuent avec les études. J'ai fait l'apprenti maçon pour gagner 2000 ou 2500 par jour pour assurer les petits déjeuners de la famille. Les humanitaires nous donnent à manger aussi. Mais mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer chez moi avec ma famille. Quant à Madina, elle est à Sévaré depuis 4 ans. Elle regrette les promesses d'aide qui ne viennent jamais.
Je suis déplacée de la commune de Timiniri, dans la région du Bayangara. Nous sommes à Sévaré depuis mars 2019. Nous sommes ici suite aux attaques terroristes de notre village Ondou. Je remercie le bon Dieu. Depuis notre arrivée, nous avions eu beaucoup d'aide et ça continue. Il faut aussi reconnaître que les gens viennent souvent dans le site, nous prennent en photo et avec des promesses sans suite. Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités sur ce phénomène, car c'est vraiment déplorable. En réalité, mon plus grand souhait est le retour de la paix pour que les déplacés puissent retourner chez eux.
Les Maliens ont voté dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution, mais la menace djihadiste et les désaccords politiques ont empêché la tenue dans de nombreuses localités du nord et du centre. 2 jours auparavant, les autorités maliennes de transition avaient demandé le retrait sans délai de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est notre fait marquant de la semaine. Je suis en ligne avec Daouda Mariko de notre station partenaire radio Kenedougou à Sikasso. Bonsoir Mariko.
Bonsoir.
Voilà. Kenedougou, ça signifie quoi Mariko? Et sur quelle fréquence on peut vous suivre?
Merci. Kenedougou, c'est vraiment une zone géographique qui signifie en bambara. L'endroit où vraiment il y a les choses fraîches. Donc, c'est ça la signification littérale. Et Radio Kenedou émet sur les 100.00 MHz depuis octobre 1992.
Merci Mariko, et je signale que vous diffusez Focus Sahel sur vos antennes. Mariko, quels sont les résultats préliminaires du référendum sur la nouvelle constitution au Mali?
Oui, bon, pour le moment, nous ne détenons pas les résultats préliminaires comme ça doit l'être, parce que jusque-là, ils sont au niveau de la compilation des différents résultats. Pour le moment, nous avons des résultats partiels qui viennent des différentes zones. Donc, il est difficile pour moi de dire que tel est le résultat vraiment préliminaire des élections. Peut-être dans les jours à venir, on le saura. Est-ce Mais ce que je peux dire, ça, oui.
Et avez-vous eu l'opportunité de voter dans votre localité?
Oui, j'ai voté. Et ma localité, c'est Sikasso, où on a au moins 1,342,675 inscrits, sur lesquels il y a 689,043 femmes et 653,628 hommes, dont 2,129 centres de vote et 3,824 bureaux de vote. Donc moi, j'ai voté au niveau de mon quartier, à Lachabougou Sikasso, dans le bureau numéro 8.
Est-ce que les journalistes ont pu suivre le décompte des voix et le dépouillement?
Oui, il n'y avait pas de restrictions. Il n'y avait pas de restrictions à ce niveau. Je pense que tous les journalistes et les observateurs qui l'ont désiré ont été admis pour suivre vraiment les décomptes. C'est la raison pour laquelle on a au niveau des groupes de beaucoup de groupes WhatsApp où on nous envoie des résultats par zone. Donc ça montre que les journalistes ont pu avoir accès vraiment au bureau pour avoir les résultats préliminaires.
Alors Mariko, Kenedougou, des choses fraîches, on a besoin d'une réaction très fraîche. Comment le public malien a-t-il réagi à la demande des autorités de transition de voir la MINUSMA se retirer rapidement?
Bon, je pense que le public vraiment a salué cette décision prise par le gouvernement dans sa majorité. Parce que je vais vous dire que bon, la population malienne dans sa majorité a été déçue vraiment des résultats produits par la MINUSMA. Parce que nous sommes dans un contexte où c'est les besoins de sécurité qui préoccupent le plus grand nombre. Et le constat a été fait que la MINUSMA n'a pas pu vraiment adapter son intervention au contexte actuel de l'insécurité du Mali. C'est vrai que dans son intervention, il y a eu des actions de développement, les projets à impact rapide et autres, la réhabilitation des infrastructures, tout. Tout ça, c'est bien, mais le socle du développement, c'est la sécurité. Vous-même, vous avez vu par rapport à la journée du 20 concernant les réfugiés, les gens ont un besoin vraiment de sécurité pour pouvoir retourner chez eux. Et le Mali vit une situation atypique en matière d'insécurité. C'est vraiment une guerre asymétrique où les données doivent s'adapter au contexte du pays. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est qu'on n'a pas permis à l'administration d'évoluer en fonction des attentes vraiment des populations pour que la sécurité soit. Et là, nous vivons dans ce contexte d'insécurité. Donc, au bout de 10 ans, les gens ont constaté qu'il y a une crise de confiance entre vraiment la mission et vraiment la population, parce qu'il y a eu des interprétations. Les gens n'ont pas compris, vous êtes là pour vraiment nous apporter la sécurité, pour appuyer les femmes, pour que la sécurité soit là, mais le résultat n'est pas là.
Donc, Mariko, donc vous donnez des arguments avancés en faveur à ce retrait, mais il doit y avoir des arguments en opposition à ce retrait. Et quelles sont les conséquences potentielles pour la situation sécuritaire dans le pays?
Bon, les conséquences, c'est qu'au niveau des zones où il y a d'abord l'aménagement, il y avait des jeunes qui avaient eu du boulot. Donc, la première conséquence, c'est que les gens vont perdre leur boulot. Ça peut vraiment amener des situations désastreuses pour le pays parce que ces jeunes qui vont perdre leur boulot peuvent être facilement enrôlés pour d'autres destinations. Donc, ça, c'est une conséquence. Aussi, il y avait des questions d'assistance à ces populations du Nord. Donc tout ça, ça va un peu disparaître, mais il s'agit pour le gouvernement peut-être de prendre le relais pour pouvoir vraiment minimiser les conséquences soit de ces retraits-là. Sinon, bon, sur le plan, ce que les populations voient dans leur majorité, c'est vraiment la question sécuritaire. Sinon, l'administration a beaucoup d'autres activités à mener qui au bénéfice des populations. Donc avec les retraits, les conséquences seront là, à ce niveau-là. Mais il s'agit pour le gouvernement vraiment de tout mettre en œuvre vraiment pour prendre le relais, pour que les désastres vraiment perçus ne se produisent pas.
Pour assurer cette sécurité économique, merci Mariko oui. Daouda pour vos clarifications. Je rappelle que vous êtes directeur de notre station partenaire Radio Kénédougou à Sikasso, au Mali.
C'est moi qui vous remercie.
Direction au Burkina Faso, à 60 km de Bobo-Dioulasso, se trouve Tchin, un village orifère qui offre un refuge et une nouvelle vie aux déplacés fuyant les groupes armés terroristes. Les habitants locaux dépendent principalement de l'activité minière pour leur subsistance. De nombreux déplacés ont choisi de s'y installer et bénéficient désormais d'une situation plus favorable. Orokia Kanko en est un exemple. Cette femme s'est engagée dans l'orpaillage et la restauration. C'est un reportage de Alidou Ouedraogo, notre correspondant depuis Bobo-Dioulasso.
Situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso, le site d'Orpaya de Tien est le point de convergence de plusieurs personnes déplacées internes. C'est le cas de Orokia Kanko. Elle a quitté Dédougou à plus de 100 km de Bobo-Dioulasso quand les combats faisaient rage. Ici, elle est restauratrice et en même temps orpailleuse.
Quand les conditions sont favorables, je fais de l'orpaillage pour mes besoins en vêtements, chaussures et autres.
Grâce à cette activité, elle gagne dignement sa vie.
Je peux réaliser un chiffre d'affaires de 13 000 francs CFA par jour. Mais avant, je gagnais plus que cela. Je pouvais gagner jusqu'à 45
000. Au Burkina Faso, plusieurs sites d'orpaillage ont été fermés parce que refuge de groupes terroristes. Sur le site de Tien, des orpailleurs se sont organisés, comme le précise Daouda Ouattara, un des responsables des lieux.
Nous avons mis en place un comité de surveillance qui veille sur la sécurité du site qui filtre les entrées. Toute personne étrangère est soumise à un interrogatoire et si nous ne sommes pas convaincus, nous le mettons aux arrêts et le remettons aux forces de défense et de sécurité.
C'est la croix et la bannière pour les déplacés qui arrivent pour la première fois sur le site d'orpaillage de Tien. Alidou Ouedraogo, le retour de Tien pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza a été avec vous au micro, Lionel Lunanila Gahima, Fatouma Kalala Alimasi, Michel Claire-Joseph, Arzouma Compaoré ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Nous revenons mardi prochain. Au revoir.
Focus Sahel, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.